sont rares et pourtant elles existent, à condition bien sûr de bien vouloir leur accorder tout le crédit qui leur revient. Dès lors que l'on aborde la question de la place des femmes dans l'histoire de la pensée économique, c'est peu ou prou la même histoire. Figures invisibilisées, voire décrédibilisées, elles ont, quelle que fût leur époque ou leur pays, pourtant apporté une contribution majeure à l'élaboration de la science économique. Charlotte Perkins Gilman ne fait malheureusement pas exception à la règle. Née aux États-Unis en 1865 et morte en 1935, vous la connaissez pourtant peut-être pour ses nouvelles et romans parfois adaptés au cinéma ou au théâtre. Elle fut l'autrice d'ouvrages théoriques par ailleurs, dont l'explicite Woman on Economics en 1889, qui se saisit de la discipline pour remettre les femmes au centre de la réflexion économique. Le travail des femmes à la maison permet certainement aux hommes de produire plus de richesses qu'ils ne le pourraient autrement. Par conséquent, les femmes sont des facteurs économiques de la société. Voilà en une phrase l'essence de la pensée de Charlotte Perkins Gilman à une époque où l'industrialisation galopante américaine ne connaît pas vraiment de garde-fous et ignore surtout le potentiel des femmes, à tort. Et c'est là tout l'enjeu du travail de Gilman que nous allons explorer pendant l'heure qui vient. Et deux invités sont avec nous jusqu'à 15h donc pour construire ce portrait de cet économiste encore trop peu connu. Guillaume Vallet, vous êtes professeur en sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes et vous êtes avec nous en studio. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour, merci à vous.
Michel Roca, vous êtes professeur d'économie au centre de recherche en économie de Grenoble et vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Isère à Grenoble, donc soyez également le bienvenu.
Bonjour.
Enfin, j'ai fait une découverte. À force de guetter les métamorphoses du papier au cours de la nuit, j'ai enfin compris. Le motif au premier plan bouge vraiment. Et ce n'est pas étonnant, la femme qui se cache derrière le secoue. Parfois, il me semble que plusieurs femmes se dissimulent derrière le motif. Et parfois qu'une seule y rampe, en rond, à toute allure. Et qu'à force de ramper à une telle vitesse, le papier en est tout agité de secousses. Parvenue dans les zones lumineuses, la femme s'arrête. Mais dans les régions obscures, elle s'agrippe aux barreaux qu'elle secoue avec violence. Et pendant tout ce temps, ce qu'elle voudrait, c'est traverser le papier peint. Mais personne ne peut échapper à ce motif tant il vous étrangle. C'est pourquoi il possède une multitude de têtes. Car si jamais elle réussissait à s'évader, ce serait pour que le motif l'étrangle et la renverse. Voilà la raison de toutes ces têtes aux yeux blancs révulsés. Si seulement ces têtes étaient effacées ou tranchées, ce serait beaucoup moins effrayant. C'est de jour, je pense, que cette femme s'évade. Je vous dirai pourquoi, mais chut, je l'ai vue. Je peux la voir de chacune de mes fenêtres. Il s'agit de la même femme, j'en suis sûre, car elle ne cesse de ramper. Et, d'habitude, les femmes ne rampent jamais à la lumière du jour.
Les femmes ne rampent jamais à la lumière du jour. C'était un extrait de La Séquestrée, une nouvelle écrite par Charlotte Perkins Gilman, donc en 1890. Guillaume Vallet, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On a entendu là des thèmes qui lui sont chers, qui vont l'occuper toute sa vie, notamment celui de l'enfermement. Peut-on dire toutefois que Charlotte Perkins Gilman fut une économiste ?
Alors, on a ici l'extrait qui résume beaucoup de choses de son approche, en particulier la situation négative des femmes qui restent au foyer, enfermées dans cette économie domestique qui est leur seul horizon. Et de ce point de vue-là, même si dans cet extrait et cet ouvrage, Charlotte Perkins Gilman ne parle pas directement d'économie, mais elle va commencer à théoriser la situation négative des femmes dans le foyer. Et de cette première analyse sortiront deux ouvrages importants, Women and Economics en 1898, comme vous l'avez dit, et puis The Home, le foyer, en 1903. Donc de ce point de vue-là, ce que Charlotte Perkins Gilman, à son époque, a apporté aux sciences économiques encore balbutiantes hein, aux États-Unis, on ne parle pas encore comme ça à l'époque, elles sont très peu institutionnalisées, mais c'est quand même l'idée que pour faire de l'économie, il faut tenir compte de la situation des femmes, parce que celles-ci contribuent à la richesse, elles ne sont pas forcément valorisées, et c'est une perte pour les femmes, mais pour la société dans son ensemble.
Et de fait, Guillaume Vallet, dans les deux ouvrages, ouvrages que vous venez de mentionner, celui de 1898 et celui de 1903, l'approche de Gilman lui est propre, mais on peut dire qu'elle reste autodidacte en termes d'économie.
Elle reste autodidacte parce qu'elle n'a pas eu véritablement l'occasion de pouvoir faire des études prolongées. Elle n'a pas eu accès à des diplômes qualifiants qui lui donneraient, on va dire, un titre d'économiste. Mais, comme je l'ai signifié tout à l'heure, on est dans cette époque où les sciences sociales sont balbutiantes. Il y a beaucoup d'écrivains. Il y a une société américaine qui se transforme profondément. On y reviendra sans doute. Et Charlotte Perkins Gilman est amenée par ses recherches, par ses contacts, à côtoyer des économistes, à côtoyer aussi des sociologues, et donc elle va finalement emprunter un petit peu à la théorie des uns et des autres, mais véritablement forger petit à petit également sa propre conception de cette situation des femmes et de leur rapport à l'économie. Et là aussi, on aura sans doute des discussions, mais elle va également utiliser beaucoup les nouvelles, qui étaient un genre littéraire très commun à l'époque, pour chercher à envisager des possibilités parfois utopiques, mais de changements radicaux, de la société américaine.
Oui, Michel Rocca, ce n'est pas tellement une surprise finalement qu'une femme à cette époque-là, je le rappelle, toute fin du 19e siècle, tout début du 20e, mais elle sera un peu plus âgée à ce moment-là, ce n'est pas très surprenant qu'elle n'ait pas suivi d'enseignement spécifique et encore moins en économie.
Oui, en fait, elle est assez représentative d'une situation qu'on peut rencontrer aux États-Unis à l'époque. En fait, ça peut paraître étrange de le dire comme ça aujourd'hui, mais c'est l'Europe, le lieu où se développent les études en économie, là où les théoriciens progressent. Et les États-Unis, c'est assez peu développé l'économie, si on doit le dire vite, assez peu de départements, quelques penseurs isolés. Et de manière générale, on peut par exemple prendre un auteur comme Simon Newcomb, des auteurs qui reprennent le message des classiques de Smith, de manière un peu parfois baroque, c'est comme ça que la théorie économique le présente, en considérant que la main invisible, c'est un peu la main de Dieu. Voilà, c'est un mélange entre les deux choses. Et on a, au tournant des années 1890, encore assez peu de départements d'économie constitués. Il va falloir attendre qu'arrive une jeune génération qui a suivi une formation, là pour le coup, très architecturée, très organisée, une formation plutôt d'histoire économique en Europe, que ces dizaines et dizaines de jeunes économistes rentrent aux États-Unis pour commencer d'abord à contester l'ordre de la pensée que promouvaient les classiques, et pour tenter d'imposer une autre manière de faire de l'économie.
Ça, c'est typiquement, Michel Rocca, le parcours d'un John R. Commons. On lui a consacré une émission d'une heure assez récemment, il y a quelques semaines. Typiquement, lui incarne ce renouveau-là, c'est cette jeune génération.
Commons, mais surtout, si on doit être plus précis dans les dates, c'est plutôt des auteurs comme Ellie, c'est-à-dire celui qui a formé Commons, qui sont les premiers à avoir fait, d'ailleurs, des parcours assez intéressants. À la fois, on fait une thèse en Europe, dans l'école historique allemande, avec Schmoller, avec Conrad, et puis ensuite on fait un tour d'Europe, parce qu'on considère que l'Europe, c'est l'Europe des idées, c'est le renouveau, et puis on rentre aux États-Unis et on souhaite créer des nouveaux départements d'économie et faire de l'économie autrement. Je crois que Guillaume Vallet pourrait être d'accord avec cette idée, c'est faire de l'économie autrement cette génération. Commons sera ensuite le plus célèbre, effectivement, mais peut-être pas le premier.
Ce qu'on comprend bien, c'est qu'entre le fait que la science économique en soit assez balbutiement, en tout cas ne soit pas formalisée comme telle, plus le fait d'être une femme dans cette société-là, Guillaume Vallet, c'est peut-être pas très étonnant non plus qu'elle soit relativement méconnue, voire inconnue. Pourtant, on la redécouvre aujourd'hui, et notamment grâce à vos travaux à tous les deux. Guillaume Vallet, en août 2021, vous avez fait un séjour, je crois, aux États-Unis, grâce à la bourse Fulbright, qui vous avait été remise cette année-là, dans le cadre de vos travaux sur l'ère progressiste américaine, qui est celle dont on parle aujourd'hui. Quel a été le résultat de ce séjour de recherche? Est-ce que vous avez trouvé des choses justement sur ces économistes en formation, en train de former la discipline, qui ont permis de renouveler votre approche finalement de cette époque-là?
Alors tout à fait, j'étais parti pour deux raisons. La première, c'était travailler sur des recherches à partir d'archives d'un autre auteur important de cette période qui s'appelle Albion Small, qui était aussi un des disciples de Richard Ely dont a parlé Michel Rocca, qui a été Albion Small le fondateur du département de sociologie à Chicago, et il avait commencé sa carrière à Colby College dans le Maine, et c'était tout à fait intéressant de comprendre à l'époque pour ces jeunes chercheurs qui avaient effectivement effectué leurs études en Allemagne, quelles étaient leurs visions, quelles étaient leurs approches pour refonder le capitalisme et la société américaine. Et puis en ce qui concerne Charlotte Perkins Gilman, tout un ensemble d'archives est disponible à Harvard. Et c'était intéressant de vraiment aller dans le détail de sa pensée, parce qu'il y a certes des références à ses ouvrages majeurs, mais c'est quelqu'un qui a énormément écrit, en particulier sur la condition des femmes. Et puis, pour la petite histoire, dans la ville où j'étais, dans le Maine, c'est là où se situe la maison de sa tante Harriet Beecher Stowe, qui a écrit la case de l'oncle Tom. Et c'était aussi une façon indirecte de connaître un petit peu le vécu familial, je dirais, de Charlotte Perkins Gilman.
Petite parenthèse, Guillaume Vallée, vous citez Harvard entre autres. Est-ce que vous diriez que tout de même Gilman est beaucoup plus connue et reconnue pour ses travaux aux États-Unis qu'elle ne l'est en France, ou est-ce que c'est un oubli qui est malheureusement assez universel ?
Alors, elle est beaucoup plus reconnue effectivement aux États-Unis parce que on va l'apercevoir avant tout comme une écrivaine, mais comme une écrivaine qui a participer à mettre sur le devant de la scène le combat des femmes, une certaine vision assez précoce du féminisme, et elle est peut-être beaucoup plus connue dans d'autres disciplines que les sciences économiques, hein, je dirais en civilisation, en littérature, bien évidemment en philosophie également, et je rajouterais parfois aussi toutes les études qui concernent le sport, puisque elle a aussi beaucoup participé à promouvoir la culture physique aux États-Unis. Mais en tout cas, vous avez raison, elle reste malgré tout en tout cas insuffisamment connue, peut-être parfois même pas connue du tout, dans la pensée économique. Et elle est aussi à l'image, finalement, de cette discipline qui est quand même très, je dirais, androcentrique, pour reprendre un de ces termes.
Est-ce que c'est ainsi que vous l'avez abordé, que vous avez peut-être entendu parler d'elle pour la première fois à travers cette étude de la culture physique? Parce que peut-être que nos auditrices et nos auditeurs s'en souviennent, Guillaume Vallée, vous êtes déjà venu à cette antenne pour nous parler plutôt bodybuilding. C'est une grande part de vos travaux, des liens entre corps et économie. Est-ce que c'est ça le lien, peut-être, qui vous a amené à étudier Gilman?
Alors oui et non, oui, parce que j'ai découvert dans ses travaux cet aspect lié à la culture physique. Elle voyait dans la réappropriation du corps par les femmes une façon de mieux connecter le corps et l'esprit, une façon également de retrouver du pouvoir et de démontrer que finalement, en investissant son corps, en le transformant, on était dans une démonstration qui participait à une certaine forme d'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a consacré par exemple des écrits dans Her Land, publié en 1915, elle met en avant cet aspect-là où les femmes de cette société fictive où il n'y a aucun homme sont tout à fait capables de réaliser des tâches physiques, utilisent leur corps, ont des muscles assez apparents qui servent elles-mêmes mais aussi la société. Donc cet aspect-là de ces recherches m'ont interpellé. Mais le deuxième aspect était beaucoup plus lié à ce, je dirais, ce contexte américain de l'époque, fin 19e, début 20e que Michel Rocca a rappelé, où tout était à construire dans les sciences sociales, et j'ai découvert que cette personne-là gravitait aussi autour de tout un ensemble de penseurs importants de l'époque, et c'est par cet intermédiaire que je suis venu à étudier ses travaux.
Alors Guillaume Vallée, vous l'avez dit, tout est à construire à cette époque-là. Michel Rocca, il faut plonger dans le contexte de cette époque assez foisonnante. On le disait, elle correspond à l'ère progressiste américaine. Alors je crois que les bornes chronologiques sont établies à peu près à 1890 jusqu'à 1920, même si j'imagine qu'il est toujours compliqué de proposer des bornes fixes sur ce genre de caractérisation historique. Michel Rocca, on peut peut-être s'arrêter sur cette dénomination ère progressiste américaine. Qu'est-ce qui est progressiste à l'époque? C'est l'idée d'une foi dans le progrès et dans le progrès économique?
Oui, alors la périodisation, c'est 1890-1920, celle qui est généralement retenue. Certains auteurs considèrent qu'il faut mettre quand même comme période la plus intense 1901-1909, c'est-à-dire quand Theodore Roosevelt était président. Parce que c'est vrai que c'est la période où le plus grand nombre de décrets, de lois et de transformations ont été adoptés. Mais je pense que 1890, c'est-à-dire le Sherman Act, la première législation contre les trusts, et 1920, l'adoption du droit de vote pour les femmes, ça fait une période bien délimitée. Je pense qu'il y a un accord en histoire économique pour retenir ces dates. Après, comment décrire l'ère progressiste ? C'est assez difficile. C'est d'abord une ère, on peut adopter plusieurs critères. Le premier critère, c'est une ère de rupture, c'est une ère de critique très forte de l'âge d'or antérieur, les 30 années précédentes qui ont été une période de croissance exponentielle. Il y a des chiffres faramineux là-dessus.
Il faut peut-être le rappeler, Michel Rocca, cet âge d'or succède tout de même à un événement majeur dans l'histoire américaine, celle de la guerre de sécession qui a pris fin en 1865.
Exactement. Et donc 1865-1890, c'est une période où la population va énormément grossir aux États-Unis, mais où surtout, quand on prend ces bornes-là, la production va être, on ne croit pas le chiffre quand on le lit, mais va augmenter de 800%. Voilà. C'est-à-dire que c'est une période incroyable au sens des chiffres qu'on peut trouver de progression de l'industrie, d'urbanisation. Et donc, pour revenir à l'ère progressiste, c'est un moment de rupture où il y a une critique par toute une série de mouvements. C'est un mouvement assez protéiforme. Hein. L'ère progressiste, il n'y a pas que les femmes. Il y a toute une série d'intervenants dans ce débat, de critiques. Et la critique, elle prend trois formes. Il y a trois grandes idées. Il y a l'idée qu'on doit construire une nouvelle justice sociale. Il est impossible de continuer avec d'un côté ce qu'on appelle les robber barons, les barons voleurs, c'est-à-dire ces 40 capitaines d'industrie qui accaparent l'ensemble des richesses, et de l'autre côté, même pas un sous-prolétariat.
Parce que oui, Michel Rocca, je suis désolé, vous êtes à distance, je vous interromps, parce que il faut bien le préciser, et notamment autour de cette idée de nouvelle justice sociale, c'est que ce capitalisme-là, qui caractérise cette ère aussi, on pourrait presque le caractériser de capitalisme débridé, mais il s'incarne dans ces fameuses industries. Il y a vraiment un vrai sujet de monopolisation aussi de la puissance industrielle.
Voilà, ce qu'on appelle ces barons voleurs, une quarantaine en fait, monopolisent tout. On réussisse à organiser des monopoles quasi complets sur la production de l'acier, sur les chemins de fer, sur les abattoirs. Bon, on retrouve parmi ces barons voleurs des noms qu'on connaît bien, encore aujourd'hui, Carnegie, JP Morgan, Rockefeller, Ford. Voilà. Il y a une sorte de captation de la richesse. Il y a des livres très durs de toute une série de progressistes sur leur action. Je reviens aux trois idées.
Donc,
une recherche de justice sociale, une recherche de démocratie. Voilà. Les progressistes ont tous ça en commun, de considérer que le pouvoir n'est pas assez distribué, qu'il faut de nouvelles règles, et notamment, c'est comme ça que aura été initié dans l'ère progressiste le 17e amendement, c'est-à-dire l'élection des sénateurs au suffrage direct. Et puis le dernier élément, peut-être le plus intéressant pour les économistes, c'est créer une nouvelle société avec une efficacité de l'action publique. Voilà. Les économistes, les sociologues commencent à se dire, on doit organiser mieux la manière de gérer l'économie. Et je dirais que ces trois axes, justice sociale, démocratie, efficacité de l'action publique pour créer une nouvelle société, c'est ça l'ère progressiste. Alors ensuite, et j'en finirai sur ce point-là, on peut trouver, j'ai essayé de faire une petite classification, on peut trouver différents contributeurs. Les femmes contribuent à leur manière en apportant certains éléments à cette œuvre, mais on peut trouver d'autres contributeurs. Dernier élément, ce n'est pas un mouvement qui couvre les États-Unis dans leur ensemble. Voilà. Ce sont surtout des initiatives locales dans le New Jersey, en Californie, dans le Midwest, avec des acteurs politiques aussi importants. Et c'est les expérimentations sociales locales qui vont donner, en quelque sorte, toutes leurs lettres de noblesse et toutes les expérimentations à l'ère progressiste.
Effectivement, des expérimentations locales, mais qui donneront tout de même son nom, finalement, à cette ère, cette fameuse ère progressiste. Guillaume Vallée, pour qu'on se rende bien compte de la situation, cette seconde vague d'industrialisation est effectivement accompagnée d'une très grande violence. C'est aussi ça qui caractérise l'époque.
Tout à fait. Michel Rocca a très bien résumé les choses. C'est une très grande violence sociale, c'est une très grande violence parfois physique également, parce que voilà, des affrontements existent entre différents types de personnes, entre différentes communautés. Et si on revient un petit peu à Charlotte Perkins Gilman, pour moi, les trois caractéristiques de l'ère progressiste qui vont permettre de comprendre finalement ses apports, ses écrits, le contexte, c'est celui de l'industrialisation, vous l'avez dit. La société se transforme rapidement, il y a de nouvelles formes d'inégalité, de nouvelles problématiques qui émergent, mais d'un autre côté, industrialisation veut aussi dire la grande firme à l'époque, et il va y avoir une fascination chez Charlotte Perkins Gilman, comme chez d'autres auteurs de cette période, pour ce qu'on va appeler plus tard l'organisation scientifique du travail. Et pour ces personnes-là, c'est pas tant le grand lieu de production qui pose problème, c'est l'utilisation de son capital et de l'enrichissement de certains, la monopolisation du profit, comme l'a indiqué Michel Rocca, qui pose problème. Donc ça va quand même marquer Gilman. Le contexte de l'urbanisation, on est dans la croissance des villes aux États-Unis au milieu de l'ère progressiste pour la première fois, et on va trouver plus de gens dans les villes que dans les campagnes aux États-Unis. Donc ici aussi, il va y avoir cette interrogation sur un nouvel ordre à constituer, en particulier aussi un nouvel ordre moral qui va beaucoup inspirer, en tout cas inquiéter, on pourrait même dire, Charlotte Perkins Gilman. Et puis en lien avec cette dimension-là, vous avez le facteur immigration qui est très présent chez exactement parce que pour elle il induit une transformation massive trop rapide de la société américaine qu'il va falloir réguler, qu'il va falloir en tout cas même stopper si on veut que ce progrès se mette véritablement en ordre.
Et je trouve que la question géographique est très intéressante aussi dans ce contexte-là. Vous l'avez dit tous les deux, il y a une forme d'urbanisation. Vous avez dit également, Michel Rocca, que le mouvement, que, en tout cas les acteurs politiques, c'est plutôt à l'échelle locale que tout cela se passe. Or, on a dit que Charlotte Perkins Gilman n'avait pas de formation en économie à proprement parler. On peut donc supputer qu'elle observe beaucoup. D'où elle observe ? Est-ce qu'elle se trouve dans un endroit des États-Unis où justement cette industrialisation s'incarne ? C'est ce qu'elle voit ?
Alors, elle a beaucoup bougé, Charlotte Perkins Gilman. Elle est née dans le Connecticut. Elle a réalisé son enfance, son adolescence par la suite dans le Rhode Island, donc plutôt la côte Est. Elle est très, très marquée par ses premières années de sa vie qui incarnent justement un ordre moral plutôt rural qui l'inspire fortement. Mais elle a été amenée par la suite, tout d'abord, après son premier divorce, à aller en Californie. Donc, elle est basculée du côté de la côte Ouest. Elle a découvert tout un nouvel univers de relations sociales, de rapports déjà au corps à l'époque. Et ça la marque. Elle fait beaucoup de rencontres aussi dans le mouvement associatif. C'est ici lié à ce que disait Michel Rocca sur cette idée d'être aussi dans l'action, d'être dans le mouvement, ici donc le mouvement social en faveur des femmes. Et puis... elle reviendra par la suite plutôt sur la côte Est, d'abord à New York en particulier, où elle va véritablement connaître pour la première fois de sa vie, je dirais, une ville aussi grande que ça, avec énormément de transformations. Et c'est là où elle va vraiment émettre de plus en plus ses avis très négatifs à l'égard de l'immigration, où elle signifiera, notamment dans son autobiographie, qu'elle ne se reconnaît pas, elle ne reconnaît pas son Amérique, comme elle l'appelle, dans la population qu'elle croise à cette époque. Et puis, elle revivra dans le Connecticut avant de mourir en Californie. Donc, elle aura beaucoup bougé en interne au sein des États-Unis, et elle a pu observer dans différents contextes, rural, urbain, des éléments sociaux et économiques qui lui ont permis de forger son approche en économie.
Michel Rocca, je crois que vous vouliez réagir à cette question.
Oui, je pense que la présentation que fait Guillaume Vallée est très intéressante, et en fait, le parcours de Gilman est assez emblématique du parcours de toute une série d'autres observateurs et observatrices, notamment, qu'on les a qualifiés à l'époque d'ailleurs, ces observateurs et observatrices, les muckrakers, c'est-à-dire les racleurs de boue, c'est-à-dire des journalistes, des universitaires, mais on ne pouvait pas vraiment parler d'universitaires reconnus à l'université encore, des gens qui avaient fait des études supérieures, et qui allaient explorer les problèmes sociaux. On a notamment une journaliste, je crois, qui a publié beaucoup de papiers dans différentes revues, qui est Ida Turbell, et qui, elle, par exemple, avait été la première à sortir une étude extrêmement détaillée sur les activités du groupe Rockefeller. Voilà, en détaillant toute une série d'oppressions, détaillant les conditions de travail. Voilà. Et je pense qu'on a Henri Desmarais, on a toute une série d'auteurs comme ça qui ont été fondateurs de la documentation de ce qui se passait pendant l'ère progressiste, et notamment des événements extrêmement graves. Je pense notamment en mars 1911 de l'incendie à New York de l'usine Triangle, où les salariés de cette usine avaient été enfermés et donc ils ont brûlé vifs. Voilà. Et donc, on a des événements extrêmement graves dans la période, et heureusement qu'il y a ces observateurs, femmes, hommes, pour documenter. Et on est quand même dans une période aux États-Unis où il faut faire connaître. Et je pense qu'une grande partie de l'ère progressiste, ce sont des auteurs qui font connaître ce qui se passe. Et il y a des éléments intéressants pour le, en recherche sociale, c'est que assez souvent, ces témoignages forts, très documentés, hein, c'est généralement des papiers extrêmement longs qui finissent en ouvrage, finissent ensuite par attirer l'attention des politiques et donnent lieu à un travail législatif et ensuite à des lois. On considère par exemple que suite à cet incendie, une trentaine de lois sur la santé ont été initiées, ont finalement été votées pour essayer de faire que les conditions de travail ne soient pas des conditions d'esclavage. Je pense qu'il faut bien insister sur un point, Guillaume Vallet l'a dit, pour nos auditeurs, c'est une période de capitalisme extrêmement sauvage, extrêmement brutale, où une main-d'œuvre arrivée d'Europe est exploité dans des conditions terribles. Et si on va encore vers d'autres observateurs, il y a les photos de Jacob Riis qui sont peut-être pour la manifestation la plus forte des désastres d'une urbanisation sauvage. Voilà, c'est peut-être le photographe qui a beaucoup dans la période montré les excès de la période du Gilded Age.
Michel Roca, une question rapide pour être sûr de bien vous comprendre. Ces observateurs, journalistes, photographes, mais aussi toutes les personnes que vous avez mentionnées plus tôt, sociologues, puis dans un second temps en politique, est-ce qu'ils se reconnaissaient comme un mouvement, comme en tant que tel?
Oui, parce qu'ils avaient tendance à être dans les mêmes revues, à écrire les articles les uns à côté des autres. Non, parce qu'ils n'ont pas formé véritablement de mouvement organisé.
Oui, ils portaient pas l'étiquette les progressistes.
Donc ils n'avaient pas d'étiquette. Il y a eu ensuite très tard dans la période un parti progressiste qui avait été initié pour des raisons politiques un peu étranges par Teddy Roosevelt, mais je crois pas qu'ils aient eu conscience et qu'ils aient eu le souhait de faire un mouvement fédéré. Voilà, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Guillaume Vallet, sur cette question, et peut-être les liens aussi avec le socialisme tout de même, qui
oui.
reprend politiquement ces idées-là.
Je pense que si on revient à ce que disait tout à l'heure Michel Roca au début de l'émission, quand il rentre d'Allemagne au début des années 1880, beaucoup de ces économistes et sociologues vont fonder l'American Economic Association en 1885, qui alors aujourd'hui est la plus grande association d'économistes au monde, mais à l'époque elle ne l'est pas, mais il y a quand même cette volonté, ils ne parlent pas forcément de progressistes, mais de s'afficher ensemble pour dire, nous, en tant qu'étudiants ou jeunes professeurs formés en économie, nous voulons que les sciences économiques portent le progrès, nous voulons que les sciences économiques soient reliées à une dimension morale qui serve la société. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut retenir un petit peu, je dirais quand même, des liens autour de cette idée de former un groupe nouveau d'économistes.
France Culture.
I'm off to work. I'll be back for dinner. Do you want anything from town?
Cigarettes and a newspaper.
Entendez-vous l'écho?
Remember, your exercise depends on your strength, my dear, and your food somewhat on your appetite. But the air you can relish all the time. And please, no writing.
Aliette Ovine.
Voilà, c'est un extrait d'une des adaptations nombreuses d'un des ouvrages de Charlotte Perkins Gilman, qui est donc notre sujet aujourd'hui. Alors, on l'a bien compris, dans cette période, un certain nombre d'acteurs, de penseurs, d'observateurs vont chercher à comprendre ce qu'il se passe d'un point de vue économique dans cette société où tout va très vite et dans une certaine violence, on l'a dit. Guillaume Vallet, Charlotte Perkins Gilman, s'inscrit totalement dans cette visée-là. Elle veut aussi faire progresser le progrès, finalement.
Exactement, elle a une expression qui dit « to move forward and to move upward », c'est avancer et aller vers le haut en même temps, toujours être dans l'action et avoir cette finalité de rendre la société meilleure. Et de ce point de vue-là, elle, sa cible prioritaire, c'est la situation des femmes aux États-Unis de l'époque. Alors, certes, pas déconnectée du reste du monde, parce qu'elle a bien conscience que cette problématique existe par ailleurs, mais on est aussi, dans cette période de l'ère progressiste, aux États-Unis, en pleine réflexion sur le fait de donner ou pas le droit de vote aux femmes. Donc elle s'inscrit aussi dans cette problématique forte de l'époque. Mais son originalité, c'est de dire que si on ne réfléchit pas en priorité à la situation économique des femmes dans la société, on n'arrivera pas à leur donner ce que Amartya Sen a parlé, des capacités réelles pour pouvoir exercer ce droit de vote.
Amartya Sen, qui était notre portrait d'économiste de la semaine dernière. Voilà, je renvoie les auditrices et les auditeurs à cette émission. Guillaume Vallet, vous l'avez dit, impossible de penser finalement le capitalisme et l'économie sans penser le travail. C'est ce qui domine aussi à cette époque-là. Et ça, Charlotte Perkins-Gilman va totalement s'en saisir aussi. En fait, c'est peut-être comme ça qu'elle pense la place des femmes en tout premier lieu, c'est-à-dire des femmes qui finalement sont enfermées, sont exclues de ce marché du travail-là. Et là, elle propose un angle d'attaque, on va dire, assez original. Pour elle, finalement, cet enfermement, qui transparaît dans toutes ses œuvres, y compris littéraires, est un réel manque à gagner pour la nation. C'est comme ça qu'elle pense aussi la question du genre.
Oui, tout à fait. Donc elle va vraiment cibler le foyer, parce que le foyer est essentiel. C'est là où la production économique, historiquement parlant, a commencé pour elle. C'est là où elle se situe toujours à son époque et qui est finalement nécessaire à la reproduction, alors comme elle l'appelle, la reproduction de la race, ce qui veut dire la reproduction humaine, hein, dans son état d'esprit. Mais le problème, c'est que ce travail essentiel qui est majoritairement réalisé par les femmes sert les hommes, puisque pendant qu'ils n'ont pas à faire ce travail réalisé par les femmes, ils peuvent mieux s'investir sur le marché du travail qui est lui beaucoup plus rémunérateur dans la société capitaliste de l'époque qui émerge. Donc c'est une première forme d'inégalité. Et puis la deuxième, c'est que ce foyer a tendance à les enfermer. Alors avec des problèmes économiques, et je fais une micro-parenthèse pour revenir au Yellow Wallpaper, c'est là qu'on voit que des problèmes aussi de dépression, d'isolement peuvent survenir pour les femmes. Parce que dans cet ouvrage-là, en fait, c'est sa propre situation qu'elle décrit, Gilman. Et de ce point de vue-là, il est important, dans un contexte aussi où, certes, ce n'est pas encore massif, mais de plus en plus des femmes commencent à être éduquées au sens où elles vont à l'école. Charlotte Perkins-Gilman considère que le fait de cantonner les femmes sur le marché du travail à certaines fonctions, on voit qu'elles sont très présentes dans l'industrie textile, qui connaît des conditions très très difficiles. Michel Roquet en a parlé tout à l'heure, avec de nombreux accidents qui ne permettent pas des évolutions de carrière intéressantes, eh bien, a tendance à enfermer les femmes, à ne pas leur offrir des opportunités à l'échelle de ce qu'elles pourraient réellement faire compte tenu de leur productivité potentielle. Et donc, on assiste bien ici à une perte de productivité pour les femmes, mais pour la société dans son ensemble, que Charlotte Perkins-Gilman entend redéfinir pour participer à ce progrès.
Donc en fait, il y a un double problème. Il y a finalement la non-reconnaissance de la valeur de ce que produisent les femmes à l'intérieur de la sphère domestique, et puis le fait que ça va mettre les États-Unis. Il y a l'idée d'un retard quand même des États-Unis dans sa pensée. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir qu'elle inscrit sa pensée dans l'idée de faire des États-Unis aussi une nation puissante, et une nation puissante économiquement grâce aux femmes.
Tout à fait. En fait, les femmes sont essentielles à plusieurs niveaux pour elles. Hein, les femmes mettent déjà au monde les enfants. Donc, elles sont d'emblée, par leur nature même, puisqu'elle insiste quand même sur des facteurs naturels, elles sont d'emblée portées dans la reproduction de l'espèce humaine et dans le travail pour autrui. Cette notion de travail est vraiment très très importante pour Gilman. Le travail, un petit peu au sens de Marx, alors même si elle va le critiquer.
Ça a été repris tout de même.
Voilà. Mais elle prend quand même ses distances sur la finalité politique de ce que proposait Marx, mais en tout cas dans cette essence qui est donnée au travail, à savoir transformer la nature pour donner une identité humaine aux individus et les construire, elle insiste beaucoup sur cet aspect-là. Et il est donc nécessaire que les femmes jouent un rôle actif dans la transformation du capitalisme américain de l'époque par leur travail, mais un travail qui doit être réalisé aussi à l'extérieur, sur le marché du travail, comme les hommes.
Michel Roca, comment cette industrialisation galopante redéfinit, reconfigure la question du travail et du genre? Où est-ce qu'on trouve les femmes au travail à cette époque-là?
On trouve, Guillaume Vallet vient de le rappeler, on trouve les femmes au travail dans toutes les industries qui sont en train de mettre en place une organisation scientifique du travail et qui vont, ces industries vont cantonner les femmes à des travaux d'exécution extrêmement difficiles, à des travaux pénibles, à des travaux qui sont dangereux. Voilà, c'est comme ça, les femmes sont cantonnées à ce genre de travail. Et c'est vrai que Gilman, mais aussi toute une série d'économistes, ces jeunes économistes revenant d'Allemagne, vont très vite faire du travail des femmes, mais travail plus généralement de l'ouvrier, le cœur de leur réflexion. C'est-à-dire, comment installer de nouvelles règles? Comment faire que, lorsqu'il y a des protestations, lorsqu'il y a des mouvements, ce ne soit pas la troupe qui vienne régler ça, mais qu'on essaye de régler ça autrement. Ils vont essayer aussi de travailler sur les horaires, sur des réglementations pour le travail des enfants. On voit bien que dans la pensée progressiste, Gilman, mais les autres aussi, le cœur du réacteur, c'est, on dirait en termes modernes, réguler le travail. Voilà, c'est ça le cœur de l'affaire. Alors on peut se dire, mais pourquoi ? Alors il y a une raison évidente, c'est les catastrophes, j'en ai cité une, mais je pourrais en citer une dizaine de catastrophes au travail et de choses absolument terribles dans la société américaine de l'époque. Mais je pense qu'il y a une raison politique qui mérite d'être mise en avant. Tous les progressistes, je pense à Small, je pense à Ely, je pense à Adams, Seligman, voilà, toute une série de personnes qu'on peut retrouver autour de l'université Johns Hopkins ou dans le Wisconsin. Je crois qu'il y a déjà l'idée qu'il faut créer, là aussi je vais utiliser volontairement un terme un peu plus moderne, une troisième voie. Le capitalisme débridé, on en voit, c'est une catastrophe et les États-Unis ne peuvent pas continuer comme ça. Mais en même temps, on a peur des idées socialistes qui sont en train d'arriver. Et donc, proposer de véritables nouveaux programmes de progrès qui prennent en compte l'ensemble des dimensions de la société, le droit de vote, le droit de propriété, les droits au travail, les réglementations sur la santé et les horaires, c'est essayer de dire voilà un chemin de prospérité et un chemin avec un peu d'harmonie, harmonie que nous avions avant cette période totalement débridée. Je ne parle pas de la guerre de sécession, évidemment.
Guillaume Vallée, pour qu'on comprenne bien aussi la pensée de Charlotte Perkins Gilman, est-ce qu'elle, elle prônait que l'idée de femme qui serait davantage sur le marché du travail comme tout le monde, ou est-ce qu'à partir du moment où elle dit que le foyer n'est pas non plus un trou économique, puisqu'elle dit qu'on y produit de la valeur, est-ce qu'elle est effectivement plus dans cette idée d'une régulation où la place de la femme aurait sa place un peu partout ?
Oui, elle est plutôt dans cette perspective-là, parce qu'il y a une dimension sous-jacente à ce qu'a dit Michel Rocard qui est très importante, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la morale. Il ne faut pas oublier que ces penseurs sont très liés aussi aux idées religieuses. On est dans la recherche d'un nouvel ordre moral après la guerre de sécession et le Gilded Age, et le fait de pouvoir orienter la nation vers une certaine direction, ce que certains sociologues de l'époque appelaient le contrôle social, notamment Edward Ross, qui est un des amis proches de Charlotte Perkins Gilman, est très important. Donc dans cette situation-là, il faut réguler, il faut éviter que le capitalisme se développe, et en particulier chez Gilman, parce que le capitalisme est androcentrique, pour reprendre son expression, il tente à survaloriser des comportements de prédation, de compétition, le désir de « to get and to gain », comme elle le disait, donc ça, ce sont véritablement des tensions importantes pour la société sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Et c'est parce qu'elle sent que les États-Unis sont aussi en train de devenir à la fois une nation qui pousse vers le haut et qui va devenir finalement une des plus importantes à l'échelle mondiale, mais qui a aussi des bases potentiellement fragiles et qu'il ne faudrait pas voir se généraliser. Et donc concrètement, on va le voir par rapport à la place des femmes, qu'elle va être en faveur de la régulation morale de toutes les activités qui concernent la prostitution, par exemple, de toutes les activités qui concernent aussi, elle est plutôt en faveur de la prohibition de l'alcool. Elle a des réflexions aussi importantes sur la sexualité. On parlait tout à l'heure de ces liens entre urbanisation, industrialisation, immigration, c'est la période aussi, l'ère progressiste, de l'eugénisme, où il s'agit de sélectionner pour, dans leur esprit, en tout cas des penseurs de cette époque, et Gilman en fait partie, de former la meilleure nation possible.
On va voir comment Gilman se réapproprie aussi la pensée de Darwin, parce que c'est vrai que c'est un aspect assez intéressant de sa pensée et finalement assez novateur aussi. Donc on a posé les premières réflexions de Charlotte Perkins Gilman autour de la place des femmes dans la société. Nous allons voir comment elle les développe par la suite et quelles sont les conséquences pour elle de cet enfermement dans la sphère domestique. Mais tout de suite, c'est l'heure d'écouter une autre figure féminine majeure de l'époque, cette Amy Beach, qui est née en 1867, elle est morte en 1944, et ce fut la première femme compositrice aux États-Unis. On lui doit notamment cette valse Caprice composée en 1889.
Thank you.
Charlotte Perkins-Gilman pense l'économie et nous avec elle. Entendez-vous l'écho lui consacre donc son portrait du jeudi, une émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par François Saint-Jour et Léni Brahamia qui assure ce duplex depuis Grenoble.
Voilà ce qui arrive à l'enfant de Erland qui vient au monde. Dès les premiers jours, elle découvre l'ordre, la sagesse et l'abondance. Par abondance, je veux dire que ces petites filles grandissent dans un environnement qui comble leurs besoins, telles des jeunes fans dans des clairières scintillantes de rosée et des prés traversés de ruisseaux. Elles se trouvent dans un monde merveilleux à découvrir. Partout, les gens sont amicaux et courtois. Aucune enfant à Erland n'est confrontée à la grossièreté que doivent affronter nos enfants à nous. Elles sont un peuple dès le berceau, la souche précieuse de la nation. À chaque étape de leur éducation, les filles découvrent que leur sujet d'étude s'inscrit dans un projet collectif. Toute compétence acquise est une offrande à la prospérité du pays. La grande différence entre nous était que nos enfants dorment en famille dans des maisons à eux, où tout est fait pour les mettre à l'abri et les protéger des dangers du monde. Alors qu'ici, les petites filles grandissent dans un environnement amical qui est leur. Nous autres avons deux cycles de vie, celle de la femme et celle de l'homme. Pour l'homme, il y a la croissance, la lutte, la conquête, la fondation de sa famille et autant de succès financiers ou professionnels qu'il peut en obtenir. Pour la femme, il y a la croissance, la sécurité conjugale, la vie de famille et quelques activités sociales ou charitables, selon sa position. Ici, à Erland, il n'y a qu'un seul cycle, très long.
Guillaume Vallet, je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'université Grenoble-Alpes. J'ai sélectionné cet extrait de Erland, alors qu'il paraît beaucoup plus tardivement, hein, en 1915. Donc on n'est pas tout à fait encore... on est beaucoup plus, bien après les écrits économiques, on va dire, de Charlotte Perkins-Gilman. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça soulève un autre point qui est important pour Gilman. C'est celui, finalement, d'un renforcement, d'une forme de cercle vicieux où, du fait de cet enfermement dans la sphère domestique, les femmes sont cantonnées, alors non seulement à des activités bien précises qui ne sont pas considérées comme productives, mais aussi à certaines qualités naturelles. Il y a un peu ce double enfermement, finalement. Puisque les femmes sont dans cette sphère domestique, qu'elles y restent, puisque finalement, elles sont faites pour ça. C'est ça qui ressort, finalement, l'analyse de Gilman.
Tout à fait. Et je pense que vous avez bien fait de sélectionner cet extrait, parce que finalement, on trouve beaucoup de choses dans Erland. Il est publié plus tard, effectivement, que Women and Economics, mais quand on connaît un peu l'œuvre de Gilman, on voit qu'il y a énormément de points d'aspect économique qui ressortent. Déjà, comme je l'ai signifié au début de l'introduction de cette émission, le fait de publier des utopies est assez fréquent à l'époque, hein, et même parmi les économistes. Celui qui va l'inspirer en particulier, c'est Edward Bellamy, qui va rencontrer à la fin des années 1890 quand elle est en Californie, et Bellamy met en avant dans une nouvelle, une utopie qui s'appelle Looking Backward, où il imagine quelqu'un qui serait né au 19e siècle mais qui se réveillerait en l'an 2000, qui découvrirait une société nouvelle fondée sur la coopération plutôt que sur la compétition. Et bien Gilman fait un petit peu la même chose ici dans Erland, et on l'a compris dans l'extra, parce que elle met vraiment en avant l'intérêt de fonctionner même industriellement en termes d'activité économique en privilégiant la coopération à la compétition. C'est très important, et ça va déclencher de nouvelles formes d'économie, comme pour elle une économie nouvelle sur le plan de la circularité. Les déchets agricoles sont utilisés dans l'industrie, elle en parle dans cette société fictive. Le fait de ne pas connaître cette société, une société qui ne connaît pas les relations de marché, par exemple, hein, plutôt dans d'autres formes d'échanges qui construisent les individus et donnent la priorité au collectif, c'est important. Et pour revenir à votre question en particulier, on a dans Erland la possibilité pour les femmes de se réaliser autrement que dans le foyer. Et donc, on sort du modèle où, quand on a des femmes qui, au contraire, sont cantonnées au foyer, leur seule façon d'exister, c'est d'exister à travers la situation d'un homme qui deviendrait le mari et qui crée une hyper-dépendance à ce qu'on entend des normes de la féminité et qui tend à créer des femmes sursexualisées, pour reprendre son terme. Et de ce point de vue-là, elle fait pas mal écho aux travaux de Thorsten Veblen en particulier, où à l'époque, l'idée pour les femmes de rester au foyer et d'avoir un rôle pour certaines d'entre elles dans la sphère de la consommation pour donner un certain statut social à travers de ce que représente le mari est très présent. Elle veut vraiment casser ce cercle vicieux, en effet.
Et cette question de la consommation, j'ai trouvé extrêmement intéressante aussi, parce que ce que nous dit Gilman, c'est qu'effectivement, les femmes, presque en forme d'accomplissement, en tout cas pour trouver une forme d'identité aussi, sont cantonnées à cette seule action économique qu'est la consommation, voire la surconsommation. Or, cette consommation-là n'est pas nécessairement très utile. Et de fait, on se trouve dans une époque où l'accumulation du capital et l'accès à la propriété devraient permettre la croissance, devraient permettre le dynamisme économique de tout un pays. Or, les femmes, en étant cantonnées à cette sphère de la consommation, ne font pas partie du dynamisme général de la nation.
Complètement, et malheureusement pour elles, mais elles participent même à la création d'un cercle vicieux, parce que non seulement elles peuvent, pour les plus fortunées d'entre elles, se réaliser uniquement dans l'acte de consommation, et on l'a vu tout à l'heure pour Gilman, c'est plus à travers le travail qu'on va pouvoir se réaliser en tant qu'individu et contribuer à la société, et puis en restant cantonné à une seule forme de compétence, qui serait une compétence, si je peux appeler ça comme ça, physique, on tente à créer des clichés pour les femmes qui resteraient marquées par une certaine nature. Et donc, si elles restent marquées par une certaine nature, c'est une forme de justification pour, lorsqu'elles vont sur le marché du travail, les payer moins cher parce qu'elles n'ont pas d'autres compétences. Et là, les femmes, à l'époque, vont aussi tomber sous le coup de la critique de certains hommes qui les accusent, même chez les économistes, hein, de faire baisser le coût du travail et de créer une forme de concurrence déloyale. Et puis, elles participent aussi au fait de survaloriser la possibilité pour les femmes de se prostituer, qui est aussi une activité économique en pleine expansion à l'époque, hein, pour les raisons qu'on a évoquées compte tenu des caractéristiques de l'ère progressiste. Et ça, Gilman le condamne très très fortement. Donc, elle fait tout un enchaînement, je dirais, logique. Si on arrive à casser ce cercle vicieux en libérant les femmes, en les faisant sortir du foyer, on va pouvoir créer des meilleures conditions salariales sur le marché du travail, on va pouvoir permettre aux femmes d'avoir une identité plus forte en tant qu'individu, et c'est toute la société dans son ensemble qui va y gagner.
Michel Roca, on l'entend chez Gilman, il y a la volonté de réformer, entre autres, cette institution qu'est le mariage. Dans quelle mesure, finalement, tout ce qu'on a évoqué sur la volonté de réguler le capitalisme, dans quelle mesure tout cela passe par les institutions ? Quel poids ont les institutions à cette époque-là, et notamment pour les progressistes ?
Mais je trouve très, très emblématique ce que vient de rappeler Guillaume Vallée à propos de Gilman, c'est-à-dire que chez les progressistes, et c'est peut-être les premiers à travailler comme ça, il y a toujours l'équilibre entre deux manières de penser. Une première manière de penser, la critique radicale et documentée de ce capitalisme sauvage. Deuxième manière de penser, qui vient s'appuyer sur la première, on propose un ensemble d'institutions, on propose un ensemble de règles nouvelles. Je pense à Élie notamment, qui a proposé dans un traité écrit, il propose toute une série de réorganisations des 5 institutions fondamentales de la société. Donc effectivement, pour les institutionnalistes les plus célèbres, et plus généralement pour ceux qui sont dans cette grande mouvance de l'institutionnalisme pendant l'ère progressiste, c'est l'idée de nous devons aller jusqu'à proposer en détail la nouvelle manière d'organiser une société. Et pour les acteurs, penseurs de cette époque, qu'ils soient populistes, croyants, économistes, sociologues, tous progressistes, l'idée c'est de proposer des nouvelles manières de faire. Que ce soit sur le droit de propriété, voilà, on peut trouver des listes très longues de propositions de nouvelles institutions. En fait, ils ont senti très tôt, avant les travaux de Commons, avant ce qu'on appelle le old institutionalism, aux États-Unis, ils ont senti que organiser une société, c'est produire et faire respecter des institutions. Et ça, c'est peut-être, ça l'aurait pas tellement reconnu dans la théorie économique. On fait beaucoup commencer cette idée avec Commons. Je pense que avant Commons, les éléments forts avaient déjà été initiés. Alors, j'ai un petit élément de comparaison, enfin, ou plutôt de mise en relation qui va dans ce sens-là. En préparant notre échange aujourd'hui, je regardais des vieux textes des années 50 d'économistes aux États-Unis qui disent « Mais En fait, le New Deal de Roosevelt n'a pas inventé grand-chose. C'était déjà les progressistes qui avaient initié toute une série d'institutions qui ont été amplifiées en 32, 34, 35, mais tout était déjà là. C'est pour ça que je pense que cette période qui n'est pas toujours beaucoup étudiée mériterait qu'on la regarde, et qu'on la regarde un peu comme le fait Guillaume Vallée, c'est-à-dire à partir d'un auteur, voir ses parcours intellectuels assez originaux.
Guillaume Vallée, est-ce qu'on peut dire dans le sillage de ce que vient de dire Michel Rocca, est-ce que pour Gilman, finalement, la sphère domestique est une forme de sphère productive aussi, mais qui est régulée par une mauvaise institution qui serait le mariage ? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer un petit peu sa vision, on va dire, du rapport entre sphère productive et institution ?
Tout à fait, notamment quand elle écrit Women and Economics, elle rappelle que John Stuart Mill a écrit en 1870 un ouvrage important sur cette question qui s'appelle The Subjection of Women. C'est la façon dont les hommes s'approprient les activités économiques au détriment des femmes, mais Mill crée un petit peu cet arbitrage pour les femmes entre le mariage et l'activité finalement productive en dehors du foyer. Pour Gilman, les deux sont compatibles, mais il ne faut pas que le mariage soit l'institution du capitalisme qui corresponde à des règles qui enferment les femmes dans le foyer, qui ne leur donnent pas d'autres possibilités, d'autres perspectives que d'y rester et de produire au sein de cette sphère domestique. Donc c'est pour cette raison, par exemple, que Gilman va considérer que les activités économiques du foyer qui sont centrales peuvent être, on pourrait le dire comme ça, externalisées. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une fascination quand même pour les grandes entreprises, parce que c'est l'organisation scientifique du travail, parce que c'est la possibilité de produire à plus grande échelle. Et là, elle s'inspire un petit peu de sa tante Catherine Beecher, qui avait produit 50 ans avant des analyses un petit peu pionnières sur cette question. Mais son idée, c'est vraiment de se dire que les activités en particulier de fourniture de la nourriture, les activités qui concernent les gardes d'enfants, alors ce qui paraît assez commun aujourd'hui, mais pour l'époque c'est assez nouveau, vont permettre d'être réalisées, doivent être pensées pour être réalisées à l'extérieur, donc par des grandes entreprises qui ne seraient pas là pour engranger le maximum de profits individuels, mais qui seraient là au contraire pour servir la société et donc libérer les femmes de ce temps de travail.
Je crois qu'il faut socialiser finalement ces activités.
Exactement, il faut socialiser les moyens de production, on dirait, il faut créer ces grandes structures extérieures qui permettent aux gens aussi de se rencontrer, qui permettent aux gens de pouvoir de se libérer de ces contraintes, et en particulier les femmes. Elle parle un peu plus des femmes que des hommes, c'est-à-dire qu'elle ne considère pas forcément que les hommes aussi pourraient participer à certaines tâches du foyer, mais elle considère que c'est véritablement dans l'externalisation de ces tâches produites à plus grande échelle que viendra d'une certaine manière le salut. On voit ici son héritage un petit peu socialiste, effectivement, qu'elle a repris au socialiste Fabien quand elle a voyagé en Angleterre, en particulier à la fin du 19e siècle. Ce qui compte pour elle, c'est cette capacité que peut produire la grande échelle de production organisée pour le bien commun.
Mais socialiser les moyens de production, c'est des petits accents marxistes, Guillaume Vallée. Est-ce que c'était accepté à l'époque ? Est-ce qu'on peut considérer Gilman comme anticapitaliste, voire marxiste ?
Alors, pas du tout, parce que elle appréciait les aspects, je dirais, techniques associés au socialisme, en particulier, je vais appeler ça comme ça, socialisme économique, qui permettent, pour les raisons que j'ai évoquées, de produire à plus grande échelle, de faire baisser les prix et de redéfinir, je dirais, l'économie au service du bien commun. Ça, elle est tout à fait favorable à cette idée. Par contre, elle considère que, par exemple, la lutte des classes n'est pas la fatalité du capitalisme. Elle n'aime pas non plus forcément l'idée d'être dans une perspective révolutionnaire. En tout cas, c'est son interprétation de Marx et de tous ses continuateurs, en particulier de ses continuateurs européens et russes. Donc elle prend vraiment ses distances à cet égard. Et ce qui est notable, c'est de voir que dans la plupart de ses écrits, elle se distancie des relations de marché. Elle met le marché de côté. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle est contre toute idée de marché. Elle est contre l'idée que seules les relations de marché pourraient exister. Donc elle propose d'autres formes d'échange basées sur la réciprocité, basées sur le don. Donc des éléments qu'on retrouve chez d'autres économistes et sociologues, bien sûr. Mais elle le met en avant à sa manière, toujours en reliant la situation des femmes. Et le plus important, c'est de penser le collectif avant l'individu, mais sans qu'on ait forcément des finalités politiques associées au marxisme politique, notamment.
Michel Roca, on arrive presque à la fin de cette émission et puis aussi de notre période chronologique. Il faut quand même dire que de 1917 à 1920 a lieu cette fameuse Red Scare, c'est-à-dire voilà une forme de répression qui pouvait, on peut dire, être anticipée peut-être le maccartisme à sa manière. Dans quelle mesure, finalement, les idées progressistes, les idées des socialistes qu'on a évoquées tout au long de l'émission survivent finalement à cette Red Scare? Est-ce que ces idées-là continuent à être plutôt bien réceptionnées ou au contraire se perdent dans cette période de répression?
Je crois que pour parler de la période de répression, et j'y viendrai, il faut parler de ce qui s'est passé juste avant. Je crois que déjà, ces idées progressistes, Guillaume Vallet et moi, faisons comme si finalement elles s'imposaient assez aisément et comme si le débat avait lieu. Bon, ça se passe pas tout à fait comme ça dans la société américaine. Si on prend certains auteurs, si on prend des économistes ou des sociologues, ils ont les pires difficultés avec leurs institutions. Je pense notamment à Ely face à Newcombe, qui a été révoqué de l'université pour avoir eu le malheur de faire témoigner un syndicaliste dans un de ses séminaires. On l'avait accusé de socialisme, il a été éloigné de l'université deux fois de suite pour cette raison. Donc les idées progressistes, même si aujourd'hui nous pouvons les présenter comme ça, comme en concurrence avec l'état de la pensée du moment et ayant pignon sur rue, ce n'est pas si facile que ça. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il est clair qu'à partir de 1917, 1920, ces idées-là ne sont plus du tout entendues. Elles sont plus du tout entendues parce que elles ont une parenté avec ce qui se passe en Europe. Et puis il y a la guerre c'est le moment de la guerre, et donc la littérature montre bien que les idées progressistes se perdent. Une partie d'entre elles se retrouve dans le parti démocrate qui prend des forces, mais on considère d'un point de vue de la théorie que le mouvement progressiste après 1917 n'a plus d'existence véritable. Ça ne veut pas dire que les auteurs isolément n'existent plus, mais on sent plus la même puissance des idées, la même présence. Parfois, un argument aussi est donné, c'est que Theodore Roosevelt a tellement fait le contrôle des trusts, la dissolution des conglomérats, que au fond, on dit parfois les progressistes ont atteint une cible principale qui était de réguler le capitalisme. Ils ont moins d'objets à travailler. Je présente la thèse de manière assez neutre. Je sais pas, j'ai pas assez d'éléments pour dire si elle est vraiment solide, cette dernière thèse, qu'ils auraient en quelque sorte épuisé leur agenda.
Non, mais c'est une piste intéressante de savoir si les progressistes finalement ont été dissous dans les politiques de Roosevelt. Guillaume Vallet, on en vient à une question épineuse, mais c'est de savoir les raisons de l'oubli relatif de Charlotte Perkins Gilman. Est-ce que c'est lié à ce contexte plus global d'oubli des progressistes de façon générale? Est-ce que c'est lié tout de même au fait qu'on l'a abordé? Ces productions littéraires et autres ont été quand même très controversées, notamment sur la question de l'immigration, avec des propos qui confinaient au racisme, ou est-ce que c'est lié finalement à son statut de femme? Est-ce qu'on peut identifier un facteur, ou c'est tout cela à la fois?
Je pense que c'est tout cela à la fois, parce que la peur du socialisme, elle est très marquée après la Première Guerre mondiale. Elle affecte forcément ce type d'écrit qui a plutôt, dans le contexte de l'époque, dévalorisé Gilman. Elle est aussi beaucoup liée, en tout cas dans les sciences économiques, à sa méthode, je dirais. Il n'y a pas de preuves scientifiques véritables à ce qu'elle met en avant. Elle fonctionne beaucoup par l'utopie, par des témoignages personnels, même si ses intuitions sont quand même fondatrices, puisque, et c'est ce qu'elle rappelle dans ou même une économique, ce serait mon interprétation, tout économiste sérieux doit considérer la situation des femmes dans son analyse. Je pense que le message est surtout là, et à mon avis, il est quand même fondateur. Mais tous ces facteurs ont fait qu'elle a été oubliée par les sciences économiques, et en citant un de ces termes, je rappelle aussi que cette discipline s'est fondée historiquement sur une perspective plutôt androcentrique. Donc, elle a plutôt été aussi mise de côté parce que d'autres économistes masculins ont plutôt mis en avant d'autres formes de travaux qui concernaient d'autres thématiques.
Donc, le poids des controverses a moins joué, peut-être.
Oui, complètement. Donc, ces facteurs-là ont vraiment mis de côté son analyse, alors qu'elle mérite, à mon avis, d'être beaucoup plus approfondie aujourd'hui.
et qu'on lui doit effectivement ce terme de capitalisme androcentrique qui est donc remis au goût du jour grâce à vous, Guillaume Vallée. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes et grâce à vous, Michel Roca, vous êtes professeur d'économie au centre de recherche en économie de Grenoble et vous étiez avec nous depuis les studios de France Bleu Grenoble et je vous en remercie. Merci également à Isadora Nebo qui a préparé cette émission et à Bruno Barada qui l'a programmée.